Bienvenue chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles. Revenons aujourd'hui un peu plus en détail sur la vie de notre héros, le grand Condé. Louis II de Bourbon-Condé porte les titres de prince de Condé, duc de Bourbon, duc d'Enghien, duc de Montmorency, duc de Châteauroux, duc de Bellegarde, duc de Fronsac, six duchés si je compte bien, gouverneur du Berry, comte de Sancerre, comte de Charolais, pair de France et premier prince du sang. Cousin du roi, car son grand-père était le cousin germain d'Henri IV. Il fut élevé par les bons pères, les jésuites de Bourges, mais il montra très vite dans la campagne militaire un génie précoce. Il fit son apprentissage militaire au siège d'Arras et reçut à 21 ans seulement le commandement honorifique de l'armée de Picardie. Il s'agissait de barrer la route à l'armée de Philippe IV d'Espagne qui, du comté de Flandre, voulait envahir la France. 5 jours après la mort de Louis XIII, le 19 mai, il remporta l'éclatante victoire de Rocroi, où il eut une conduite héroïque. Puis il fut envoyé avec le vicomte de Turenne sur le Rhin et battu en 1644, les Allemands à Fribourg. Il remporta aussi la bataille de Nördlingen en 1645.
Thank you.
En 1646, à la mort de son père, le voici devenu quatrième prince de Condé et remporte encore d'autres victoires. La même année, il prend Dunkerque et il est victorieux à Lens contre l'archiduc Léopold Guillaume et la paix revient avec le Saint-Empire en 1648. Mais Condé déteste Mazarin, qu'il appelle tout simplement le faquin écarlate. Très imagé, vous en conviendrez, et cette haine l'entraînera dans la fronde. Il considérait le cardinal, très proche de la régente Anne d'Autriche, comme un usurpateur étranger. La reine le fait jeter en prison avec son frère, le prince de Conti, et son beau-frère, le duc de Longueville. Le 7 février 1651, Mazarin s'enfuit et les frondeurs sont libérés. Condé fronde de plus belle. Il négocie même avec le roi d'Espagne Philippe IV et le lord protecteur anglais Olivier Cromwell. Il lève des troupes, marche sur Paris, mais trouve en face de lui son cousin Louis XIV, âgé de 14 ans et très déterminé. Turenne, le fidèle entre les fidèles, prend la tête des troupes royales et défait le prince à la bataille de Blénod le 7 avril 1652, puis à Étampes et enfin jusque dans le faubourg Saint-Antoine où la grande mademoiselle, duchesse d'Orléans, fait pourtant même tirer le canon sur les troupes du roi, son cousin, pour permettre à Condé de se réfugier dans Paris. Condé continue sa guerre contre son royal cousin. Il passe même du côté espagnol et se fait battre par Turenne à la bataille des Dunes. Enfin, le traité des Pyrénées de 1659 lui assure le pardon royal que Louis XIV lui signifie peu avant son mariage avec l'infante espagnole Marie-Thérèse d'Autriche. La guerre se rallume entre la France et l'Espagne et Condé, qui a retrouvé un commandement dans les armées du roi, prend le comté de Bourgogne au Habsbourg d'Espagne en seulement 3 semaines en 1668. Il combattra encore auprès de Turenne lors de la guerre de Lande en 1672 où il bat Guillaume d'Orange et passe en Alsace pour défendre la province attaquée par les armées de l'Empire germanique. C'est après cette victoire qu'a lieu à Versailles l'épisode du grand escalier des ambassadeurs, où Louis XIV le reçoit en grande pompe, du haut de l'escalier de marbre sur les marches duquel il y a toute la cour. Sur le côté, planté à chaque marche, des soldats en cuirasse présentent les drapeaux pris à l'ennemi par le prince. Les seigneurs, les dames, somptueusement parés entourent le roi et se penchent sur la balustrade pour le voir. Le roi, habillé de satin et de dentelle, culotte à la française, talons rouges et plumes blanches sur son chapeau noir, attend en haut des marches, appuyé sur sa canne à pommeau, l'autre main crânement posée sur sa hanche. L'escalier est très haut. Écondé et perclus de rhumatisme, il a beaucoup de mal à monter vers le roi, son chapeau emplumé à la main et courbé respectueusement. Enfin, il atteint la dernière marche et, confus d'avoir fait attendre le roi, il lui présente des excuses. Louis XIV sourit avec politesse. « Mon cousin, quand on est chargé de lauriers comme vous l'êtes, on ne peut marcher que difficilement. » Après avoir terminé complètement et somptueusement la rénovation de son beau château de Chantilly, son Versailles à lui, Condé décide de donner une grande fête. Le 21 avril 1671, il reçoit donc, pendant 3 jours, Louis XIV et les 3000 courtisans de Versailles. La fête est fastueuse et les banquets exquis et interminables. Condé désire tourner définitivement la page de sa brouille avec son royal cousin, alors au fait de sa jeunesse, de sa beauté et de sa gloire, et retrouver enfin sa grâce et ses faveurs. Pour Vatel, cuisinier et intendant de Chantilly, le séjour du roi finira mal. Le 24 avril, désespéré par le retard supposé de la marée livrée au château et en provenance de la côte normande, il se donnera la mort, à moins que ce soit un terrible chagrin d'amour, tel le ver de terre amoureux d'une étoile, un chagrin d'amour infligé par une grande dame de la cour dont il était éperdument épris et qui se moquait de lui, le raillant sans pitié. Les faits ont été rapportés dans une des merveilleuses lettres écrites par Madame de Sévigné à sa fille Madame de Grignan. En 1671, Vatel, qui a 40 ans, est le contrôleur général de la bouche du Grand Condé au château de Chantilly. Autrement dit, il fait office de maître d'hôtel chargé d'assurer l'intendance de cette grande maison. Quand Condé lui annonce qu'il a invité Louis XIV et toute sa cour pour 3 jours de fastueuses fêtes, il sent monter la pression, d'autant que son maître lui fait bien comprendre qu'il compte sur cette réception pour faire oublier au roi ses faux pas.
Thank you.
Vatel doit donc organiser 3 banquets, comptant 3000 convives chacun, dont 600 nobles, car Louis XIV ne se satisfait pas d'un menu ordinaire. Il faut lui présenter plusieurs dizaines de plats de viande et de poisson à chaque repas. Sans compter que le maître d'hôtel doit également prévoir des distractions, ballets, pièces de théâtre, musique et même un feu d'artifice. L'ampleur de la tâche écrase déjà ce pauvre homme. Va-t-il s'en sortir? Rien que la conception des menus est un véritable casse-tête. Il envoie des dizaines d'émissaires dans tout le pays pour collecter les meilleurs produits. Il engage une armée de musiciens, de comédiens, de danseurs, de cuisiniers, de valets. C'est bien simple, au cours des 12 jours qui précèdent la réception, il perd le sommeil. Le jeudi 23 avril, Louis XIV et sa cour arrivent enfin à Chantilly. Durant la matinée, les invités participent à une grande chasse dans la forêt voisine. Vatel est sur des charbons ardents. Il veille à tout. Il semble avoir la situation en main quand, soudain, le drame. François Vatel est effondré. Les invités sont beaucoup plus nombreux que prévu. Et les rôtis viennent à manquer sur 2 des 25 tables d'honneur. Le maître d'hôtel est inconsolable. Il se dit atteint dans son honneur, même si aucun reproche ne lui est adressé. Le reste de la soirée se déroule impeccablement. Le spectacle, mêlant danseurs, musiciens et acteurs, est apprécié du roi. Le cadre est magnifique. Les illuminations sont superbes. Seul le feu d'artifice laisse un peu à désirer à cause des nuages. Mais voilà, la viande a manqué. Vatel court d'un endroit à l'autre en répétant « Je suis perdu d'honneur, voilà un affront que je ne supporterai pas » et de répéter à l'intendant de Condé, le baron de Gourville « La tête me tourne, il y a 12 nuits que je n'ai pas dormi, aidez-moi à donner des ordres !» Il monte se réfugier dans sa chambre. Gourville, qui commence à s'inquiéter, court prévenir Condé. Celui-ci vient trouver son maître d'hôtel. « Tout va bien, lui dit-il, rien n'était si beau que le souper du roi. » Mais rien à faire. François Vatel répète « Monseigneur, votre bonté m'achève. Je sais que le rôti a manqué à 2 tables. » Le prince répond avec patience « Point du tout, ne vous fâchez pas, tout va bien. » Cependant, Vatel finit par rassembler ses esprits. Il lui faut enchaîner avec le banquet du lendemain. Le malheureux a prévu du poisson, beaucoup de poisson. Encore s'il avait joué la sécurité en programmant du poisson des temps, facile à trouver dans les bassins du château. Mais non! Il a choisi du poisson de mer, du saumon, de la sole, du bar, de la plie, de la raie, du turbot. C'est prendre un immense risque en matière d'approvisionnement. Vatel passe commande dans une 20aine de ports de Normandie. Comme à cette époque, on n'a pas encore eu l'idée en France de garder le poisson au frais avec de la glace, il faut l'acheminer le plus rapidement possible après sa pêche sur des charrettes. Pour être servi à la table du roi le vendredi, le poisson doit être ramené au port le jeudi matin, puis être conditionné pour le transport et enfin parcourir un peu plus de 200 km en moins de 24 heures. D'autant que la météo joue contre lui. Depuis plusieurs jours, la pluie rend les routes boueuses. Les chevaux ont du mal à avancer, les carrioles s'enlisent. Normalement, les chemins des marais menant à Paris sont spécialement entretenus par des élus de la mer, autorisés à lever des taxes sur les paroisses à cet effet. Mais quelques années auparavant, Colbert avait mis fin à cette fonction, car certains élus détournaient une partie des sommes à leur profit. En fait, le ministre voyait d'un mauvais œil les personnes privées prélevaient des taxes publiques. Depuis lors, les chemins des marais se détériorent gravement. Voilà une raison, parmi d'autres, qui explique le retard du poisson commandé par Vatel. Bref, le 24 avril 1671 à 4h du matin, Vatel ne voit arriver à Chantilly qu'un petit pourvoyeur avec deux charges de marais. « Citons Madame de Sévigné. » Il lui demande « Est-ce là tout ?» Il lui dit « Oui, monsieur. » Il ne savait pas que Vatel avait envoyé des commandes à tous les ports de mer. Il attend quelque temps. Les autres pourvoyeurs ne viennent point. Sa tête s'échauffe. Il croit qu'il n'aura pas d'autres marais. On imagine dans quel état se trouve le pauvre homme qui déjà la veille se croyait déshonoré à cause de quelques rôtis manquants. À 8h, toujours rien à l'horizon. Vatel se voit déjà servir des plats vides. Il court se lamenter une fois de plus auprès de Gourville. « Monsieur, je ne survivrai pas à cet affront. J'ai de l'honneur et de la réputation à perdre. » Cette fois, monsieur de Gourville perd patience et se moque. Celui-ci ne le supporte pas. Il monte dans sa chambre, cherche un moyen d'en finir avec la vie. Il saisit son épée, la fixe dans la porte pour se précipiter contre elle et s'embrocher. Pour un cuisinier, c'est une méthode appropriée d'en finir avec la vie. Mais il se rate. Une deuxième tentative se révèle tout aussi vaine. Enfin, il s'embroche le cœur à la troisième et tombe raide mort. Il expire au moment où la marée arrive de tous les côtés. Marie-France Guimard Roche vous retrouvera dans ces siècles fastueux pour une nouvelle émission de Bienvenue chez le Roi. Celle-ci était enregistrée par Roland Richard dans les studios du Rocas de Radio Grand Ciel avec la musique de Handel.